Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre, cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie, tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre, voilà notre philosophie. Philosophie, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
La valse des 20 ans traverse les bistrots, éclate comme un rire aux bouches du métro. Mais voici se lever le soleil déconstruit. La valse des 20 ans tourne à travers Paris. Bon pour le vent, bon pour la nuit, bon pour le froid, bon pour la marche et pour la boue et pour les balles, bon pour la légende et pour le chemin de croix, bon pour l'absence et les longs soirs drôles de bal. Ou comme j'ai dansé, petit tu danseras sur une partition d'orchestre inhumaine. Bon pour la peur, pour la mitraille et pour les rats. Bon comme le bon vin, bon comme la romaine. La valse des 20 ans traverse les bistrots, éclate comme un rire aux bouches du métro. Mais voici se lever le soleil déconstruit. La valse des 20 ans tourne à travers Paris. Bon pour l'agneau, la laube et l'angoisse au créneau. Bon pour l'attente et la tempête et les patrouilles. Et bon pour le silence où montent les signaux. La jeunesse qui passe et le cœur qui se rouille. Bon pour l'amour et pour la mort, bon pour l'oubli. Dans le manteau de pluie et d'ombre des batailles. Enfants, soldats, les vivants sans autre lit que la fausse confie d'avance à votre taille. La valse des 20 ans traverse les bistrots, éclate comme un rire aux bouches du métro. Mais voici se lever le soleil déconstruit. La valse des 20 ans tourne à travers Paris.
Pierre Georges, pour qui ce nom aujourd'hui évoque-t-il quelque chose? Si je dis colonel Fabien, à beaucoup d'entre vous, ce nom évoquera une place de Paris ou une station de métro. Et aux plus avisés, le siège du Parti communiste français, puisque cette figure de rhétorique s'est banalisée. À encore moins d'auditeurs, ce colonel Fabien évoquera la mémoire d'un extraordinaire militant. Belle jeunesse qui se cherche des idoles et des exemples et qui va aisément les trouver en Sud-Amérique, il est de jeunes Français au parcours tout aussi irréprochable et admirable dont vous ne connaissez même pas les noms. Ainsi, Pierre Georges, complètement emblématique de cette catégorie de combattants à la vie et à la mort, et qui pourtant s'était choisi la devise « vaincre et vivre ». Son destin est si exceptionnel que nous avons choisi de lui consacrer deux émissions pour retracer son parcours plus qu'exemplaire, extraordinaire. Cette première émission nous conduira de sa prime jeunesse jusqu'à mi-1942, période où il va poursuivre son action en Franche-Comté. Nous évoquerons l'environnement familial militant qui structure les désirs d'engagement dès l'enfance, son investissement dans la guerre d'Espagne et ses actions dès le début de la guerre en 1939.
Les quais de Paris chantent, ma cathédrale, l'odeur des halles, le gris des jours, les quais de Paris chantent. Tes yeux qui blessent notre jeunesse et mon amour, ce poème où mon désir invente que tu m'aimes. Ici j'ai rendez-vous, c'est ma ville, mon ciel, mes rues tendres. Ici j'ai rendez-vous avec la liberté, et pour elle on est prêt à mourir debout. Les murs de Paris chantent, les vrais poètes, les rues en fête et le bonheur. Les murs de Paris chantent, le sang qui coule, l'espoir des foules et leur grand cœur, et l'histoire dont les leçons enfantent des victoires. Ici j'ai rendez-vous, c'est ma ville, mon ciel, mes rues tendres. Ici j'ai rendez-vous avec la liberté, et pour elle on est prêt à mourir debout. Les toits de Paris chantent, tant de fumée vite en aller, et les beaux jours, les toits de Paris chantent. Les prisons mortes, les âmes fortes qui croient toujours, et encore au lendemain qui chante dans l'aurore. Ici j'ai rendez-vous, c'est ma ville, mon ciel, mes rues tendres. Ici j'ai rendez-vous avec la liberté, et pour elle on est prêt à mourir debout.
Le 21 janvier 1919 naît à Paris dans une famille ouvrière Pierre Georges. Il est le fils de Félix Georges, originaire de Rochefort, qui était venu très jeune chercher du travail à Paris et qui devint boulanger dans la commune du Pin en Seine-et-Marne. Félix Georges épouse la jeune vendeuse de la boutique, Blanche Gaillourdet, en octobre 1910. Ils auront plusieurs enfants, Daniel en 1911, puis Denise en 1912, et s'installent à Paris. La guerre de 14 survient, Félix est mobilisé, il y sera boulanger durant 4 ans et à son retour adhère à la CGTU. Puis ce seront les naissances de Pierre en 1919 et de Jacques en 1920. Ils vivent alors à Bagnolet où Pierre très tôt s'intégrera dans les mouvements de jeunesse. La famille déménage encore à Villeneuve-le-Roi pour ménager la santé de la mère qui cependant décédera en 1928, laissant Pierre, alors âgé de 9 ans, et sa fratrie orphelins de mère. Pierre et son frère sont aussitôt envoyés en pension dans un village de Dordogne, où ils feront un peu les 400 coups, y compris anticléricaux. la dame Ménard qui les a reçus décidera de les faire baptiser pour les assagir. Le père, l'apprenant, applique aussitôt et fait un scandale pour obtenir l'annulation des baptêmes. Après 6 mois bucoliques, les voilà de retour à Villeneuve-le-Roi, où ils vivent avec le père et la grande sœur. Son frère aîné Daniel s'est engagé au JC et adhérera au PC en 1934. Sa sœur Denise, adhérente aussi au JC, monte un groupe de pionniers dont Jacques et Pierre seront les premières recrues.
Copains, regarde les rues, les flicards et les roussins montrent leur gueule pourrie. Le brut est assassin. Racaille, par ça serais-je abîmé. Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai. Copains voient malgré la rousse les bourgeois gras et pansus. Les richards ont eu la frousse dès qu'ils nous ont aperçus. Vipère, tremblez devant l'opprimé. Un 1er mai sans colère, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans colère, ça n'est pas un 1er mai. Copains, car à la faconde, des grands ténors endormeurs, la haine seule est féconde, la haine des affameurs. Récolte, bourgeois, ce que tu as semé. Un 1er mai sans révolte, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans révolte, ce n'est pas un 1er mai. Copains, pense à la vengeance quand nous serons les plus forts. Nous détruirons cette engeance au pied de ces coffres forts. Charogne, quand nous t'aurons supprimé, nous fêterons sans vergogne, bourgeois, notre 1er mai. Fêterons sans vergogne, bourgeois, notre 1er mai.
1er mai 1930. Manifestation. Le père qui se bat avec un commissaire de police écope de 8 jours de prison. Le 2 mai, Pierre à l'école a une altercation avec son directeur et lui envoie un encrier à la tête. 3 jours de suspension. En 1931, Pierre est envoyé à Alès avec un groupe de pionniers dans le cadre d'échanges entre enfants de travailleurs dans cette période de crise économique avec licenciements et baisse des salaires, d'où une montée des revendications. Éclate donc la grève des mineurs et Pierre s'en mêle aussitôt en lançant des billes pour faire tomber les montures des policiers. Il écopera là d'un violent coup de mousqueton, ce qui renforcera ses motivations. De retour à Paris, il rate son certificat d'études. Son père le fait redoubler et il sera reçu brillamment l'année suivante. Aussitôt, Pierre, à 14 ans et demi, cherche du travail. 5 employeurs entre 1933 et 36. Il affronte physiquement ses patrons quand il le cherche un peu. Le 12 février 1934, en riposte à l'action des ligues factieuses, il est piqué de grève devant son usine. Arrêté par la police, il sera libéré avec ses camarades sous la pression populaire. Le 1er mai 35, il est arrêté en graffitant des slogans communistes et il est condamné à une amende par le tribunal pour enfants. Pierre se révèle un meneur d'hommes hors pair et il multiplie les actions. Ainsi, à l'été 35, pour que des enfants d'ouvriers puissent s'aérer pendant les vacances, il organise un camp des scouts. Arrive 1936. En mars, il est élu secrétaire des jeunesses communistes du quartier Combat à Paris. et à ce titre, bien qu'âgé seulement de 17 ans, il entre au PC et dans la même cellule que son père. Il est dans la foule des grandes manifestations du Front populaire. En septembre, il a bien reçu l'appel de Torres à soutenir la République espagnole, et le 22 octobre, le gouvernement espagnol publie le décret de création des brigades internationales. Alors que, dès septembre, à l'initiative du PCF, un comité de recrutement était installé dans les bâtiments de la CGTU. Pierre veut partir. Au JC et au parti, on n'est pas d'accord. Trop jeune. Son père est absolument contre. Pourtant, fin octobre, début novembre, Pierre est à Albacete, ayant sans doute falsifié ses papiers. Plus fort encore, fin novembre, la 13e brigade polonaise, dite Mickiewicz, est saluée avant son départ pour le front d'Aragon, où se situe Teruel, par la Passionaria et André Marty, flanqué de son jeune garde du corps, qui n'est autre que Pierre-Georges. Cependant, son jeune âge découvert, on lui interdira pendant un an d'aller au combat. En octobre 1937, affecté au 14e bataillon, il va connaître son baptême du feu et aura l'occasion de prendre le commandement de 250 hommes pour tenir contre un assaut jusqu'à l'arrivée du 13e bataillon. Suite à quoi il suivra une formation d'officier des brigades et en janvier 38 réintègre à 19 ans la 14e brigade comme aspirant. Le 19 mars 1938, il est à la bataille de Gandesa où, dans un déluge de feu, il recevra une rafale de mitraillettes en plein ventre. On le sauvera à Barcelone, mais le combat est fini pour lui. Il rentrera en France en juin 1938.
Die Herren Generäle, Amikamien, haben uns verraten. Wer hat denn diese Herren, Mamikamien, so schlecht beraten. Madrid, dich wunderbare, Mamikamien, dich wollten sie nehmen. Marchaos Legionarios, Hitlerianos, Invasor, Amica mia, a vuestra tierra, porque el proletariado, Amica mia, ganó la guerra.
André Coudrier était la marraine de guerre du commissaire politique du bataillon Henri Barbus de la 14e brigade, Daniel Georges, le frère aîné de Pierre. Elle militait à l'UJFF du quartier Combat, et âgée de 20 ans, elle avait 6 frères et sœurs. À 12 ans, avec son certificat d'études, elle entre dans le monde du travail. Présentée par Daniel à Pierre, ce sera le coup de foudre entre les deux. Le 4 mai 1939, ce sont les fiançailles et le mariage est célébré le 8 juillet au restaurant ouvrier de la CGTU. Ils partent en voyage de noces à la campagne, en camping avec le petit frère. Ce seront de merveilleuses vacances, mais les seules de toute la vie de Pierre.
Il avait un beau costume, un sac plus perfectionné qu'il n'est de coutume, un matériel renommé, un chapeau à plumes, mais il n'était entraîné qu'à marcher sur le bitume. Il est perdu dans le bois, le campeur en sucre là, il est perdu dans le bois, le campeur en chocolat. Il s'est couché sur la terre et la terre lui a dit: j'ai beaucoup de pierres, tu serais mieux dans ton lit que dans la clairière. Il se lèvera meurtri, ton pauvre petit derrière. Il est perdu dans le bois, le campeur en sucre là. Il est perdu dans le bois, le campeur en chocolat. Et voilà qu'un gros moustique est venu ronfler tout près sa chanson magique. Pour camper, tu n'es pas fait, si tu crains ma pique, ta nuit je la remplirai de venins et de musique. Il est perdu dans le bois, le campeur en sucre là. Il est perdu dans le bois, le campeur en chocolat. Et voilà que l'araignée, avec son corps tout velu, a fait son entrée. Au bout de mon fil ténu, c'est ma destinée. Je fais peur aux gens venus de la ville confinée. Il est perdu dans le bois, le campeur en sucre là. Il est perdu dans le bois, le campeur en chocolat. Et la couleuvre est venue se chauffer auprès de lui contre sa peau nue. Après elle, la fourmi brûlante et menue, et la petite souris grinçant de ses dents pointues. Il est perdu dans le bois, le campeur en sucre là. Il est perdu dans le bois, le campeur en chocolat. Et bientôt toutes les bêtes, hiboux, lapins et renards, avec les belettes, ont accouru pour le voir qui perdait la tête. Et les bêtes dans le noir l'entouraient, lui faisaient fête. Il est perdu dans le bois, le campeur en sucre là. Il est perdu dans le bois, le campeur en chocolat. Mais quand vint l'aube tranquille, les animaux l'ont conduit tout près de la ville. Souviens-toi, lui ont-ils dit que rien n'est facile, et que camper n'est permis à peureux ni imbéciles. Il est perdu dans le bois, le campeur en sucre là. Il est perdu dans le bois, le campeur en chocolat.
Février 1939, Pierre est embauché à la Compagnie Générale des Voitures. En septembre, il entre aux usines Capra de la Courneuve. Mais le pacte germano-soviétique est signé le 22 août 1939, qui laisse pantois bien des militants. Pierre en est, tout en continuant sa militance et ses distributions de tracts. Le 2 décembre 1939, André rend visite à son beau-frère. Elle tombe sur les flics en train de perquisitionner. Ils iront aussi chez elle et y trouveront les feuilles de paix de Pierre, qui sera aussitôt arrêté à sa sortie de l'usine Capra. Les voilà donc emprisonnés. Raymonde, l'épouse de son frère Daniel, et André, l'épouse de Pierre, sont internés à la Petite Roquette. Jacques et Pierre, après avoir été frappés au quai des Orfèvres, sont enfermés à la Santé. Pierre y restera 5 mois, durant lesquels il écrira chaque jour une lettre d'amour à son épouse, et il lira un maximum d'ouvrages de littérature.
Comme une étoffe déchirée, on vit ensemble séparés, dans mes bras je te tiens absente. Et la blessure de durer, faut-il si profond qu'on la sente, quand le ciel nous aime mesurer. C'est si peu dire que je t'aime. Cette existence est un adieu, et tous les deux nous n'avons Dieu que pour la lumière qui baisse. Chausser des bottes de cet lieu en se disant que rien ne presse, voilà ce que c'est qu'être vieux. C'est si peu dire que je t'aime. C'est comme si jamais, jamais, je n'avais dit que je t'aimais, si je craignais que me surprenne. La nuit sur ma gorge qui met ses doigts gantés de souveraine, quand plus jamais ce n'est le mai. C'est si peu dire que je t'aime. Lorsque les choses plus ne sont qu'un souvenir de leurs frissons, un écho de musique morte, demeure la douleur du son qui plus éteint que plus devient forte. C'est peu des mots pour la chanson. C'est si peu dire que je t'aime. Et je n'aurais dit que je t'aime.
Le 6 mai 1940, il bénéficie d'un non-lieu, mais au titre de ses activités passées à la JC et du décret Sérolle, promulgué début avril 40 et qui prévoyait la peine de mort pour, je cite, « tout Français qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale ». Fin de citation. Il sera interné administratif au camp du Bayet, au nord de Paris. Son frère et sa belle-sœur seront, eux, internés aussi. Seule son épouse André, enceinte de 7 mois, sera libérée et accouchera le 10 août 1940 d'une petite fille prénommée Monique. Devant l'avancée allemande, Pierre est évacué vers le sud et il en profitera pour s'évader du wagon à bestiaux en cassant quelques planches. Avec quelques camarades, le voilà dans la nature entre Limoges et Brive, et il se fait aussitôt incorporer à la caserne du 126e régiment d'infanterie de Brive, sous le nom du sergent-chef Pierre-Paul Bordeaux, né à Pontigny dans l'Yonne en 1917. Et le voilà doté d'un livret militaire, excellent sauf conduit par les temps qui courent. À Brive, il prend aussitôt contact avec le PC local, sort des armes de la caserne et constitue des groupes de 3 pour l'action. Le 23 août, à Mâcon, il obtient sa feuille de démobilisation et part en clandestin dans le sud de la France, où il va réorganiser un peu partout les jeunesses communistes. En novembre 40, quand Pétain vient à Toulouse, Pierre-Georges est là et, tirant du bas d'un conduit relié à un chaîneau sur les toits une ficelle, il fera basculer une pluie de tracts au passage du maréchal. Novembre-décembre, il est Fredo à Marseille et installe une imprimerie clandestine. À Toulon, il lance un journal clandestin pour les marins, le Jean Le Gouin. En janvier 41, il est en Corse où il rencontre Léo Figuère et organise l'activité clandestine. Jusqu'en avril-mai 1941, il est à Lyon où il transmettra la jeunesse communiste à son départ à Léo Figuère et l'interrégion à Jean Mérot.
La patrie est comme une barque qu'abandonnait l'océan, et je ressemble à ce monarque plus malheureux que le malheur, qui restait roi de ses douleurs. Vivre n'est plus qu'un stratagème, le vent s'est mal séché les pleurs. Il faut haïr tout ce que j'aime, ce que je n'ai plus, donnez-le. Je reste roi de mes douleurs. Le cœur peut s'arrêter de battre, le sang peut couler sans chaleur. Deux et deux ne fassent plus quatre, aux pigeons volent des voleurs. Je reste roi de mes douleurs. Que le soleil meure ou renaisse, le ciel a perdu ses couleurs. Prendre Paris de ma jeunesse, adieu printemps du quai aux fleurs. Je reste roi de mes douleurs. Fuyez les bois et les fontaines, taisez-vous, oiseaux querelleurs. Vos chants sont mis en quarantaine, c'est le règne de l'oiseleur. Je reste roi de mes douleurs. Il est un temps pour la souffrance, quand Jeanne vint à vos couleurs. Ah, coupez en morceaux la France, le jour avait cette pâleur. Je reste roi de mes douleurs.
Le 22 juin 1941, le pacte germano-soviétique est dénoncé au grand soulagement des militants communistes français, et les nazis envahissent l'URSS. Déjà en 1940, beaucoup d'actes de rébellion ont conduit les occupants à exécuter Jacques Bonsergent, Marcel Drossier, ainsi que Étienne Achavanne, qui fut le premier fusillé en France le 6 juillet 1940 pour avoir coupé des lignes téléphoniques. En octobre 1940, les directions du Parti communiste avaient constitué l'organisation spéciale OS pour réaliser des sabotages et des prises de parole en public. En juin-juillet 1941, Pierre-Georges, à la demande de Charles Tillon, arrive à Paris où il retrouve son épouse et sa fille. Il s'installe rue d'Aubenton. Leur bonheur, là, durera 2 mois.
Domicile vivant et de loger le temps dans un cœur continu, et d'avoir vu ses mains se poser sur le monde comme sur une pomme dans un petit jardin, d'avoir aimé la terre, la lune et le soleil comme des familiers qui n'ont pas leur pareil, et d'avoir confié le monde à sa mémoire comme un clair cavalier à sa monture noire, d'avoir donné visage à ses mots femme enfant et servi de rivage à d'errants continents et d'avoir atteint l'âme à petits coups de rame pour ne l'effaroucher d'une brusque approchée. C'est beau d'avoir connu l'ombre sous le feuillage et d'avoir senti l'âge ramper sur le corps nu. Accompagner la peine du sang noir dans nos veines et dorer son silence de l'étoile patience. Et d'avoir tous ces mots qui bougent dans la tête, de choisir les moins beaux pour leur faire un peu faire. D'avoir senti la vie hâtive et mal aimée, de l'avoir enfermée dans cette poésie.
Le 14 juillet 1941, deux manifestations sont organisées à Paris au quartier latin et à Strasbourg Saint-Denis. Le 13 août 1941, une centaine de manifestants défilent depuis Strasbourg Saint-Denis. La manifestation est réprimée violemment avec des arrestations. Pierre-Georges était là au premier rang. Ses amis Henri Gautreau et Samuel Tiselman, dit Titi, arrêtés, seront fusillés le 19 août. En répression aussi, les Allemands, le 20 août, rafent 4000 juifs dans le 11e arrondissement. Ils seront déportés. Pierre-Georges veut agir, mais pour lui comme pour les autres, il est difficile de se décider à tuer des hommes, fussent-ils allemands et nazis. Pourtant, il faut leur montrer qu'ils ne peuvent assassiner impunément des Français. Alors, la décision est prise. Le 21 août, Fredo, alias Pierre-Georges, a rendez-vous à 8h au métro Barbès-Rochechouart avec Gilbert Brunstein, Bob Gascoin et Fernand Zalkinoff. Lors débouche un Kriegsmarine qui s'apprête à monter dans le métro. Fredo tire deux fois et s'enfuit en criant « Arrêtez-le, arrêtez-le !» Sorti à l'air libre, la peur au ventre, ses premiers mots seront « J'ai vengé Titi !» Le retentissement sera considérable. Le même jour, Pucheux, ministre de l'Intérieur, présente ses condoléances aux Allemands et à 18h se tient un conseil des ministres à Vichy. Décision. Création de sections spéciales près des cours d'appel pour condamner à mort sans instruction ni recours les communistes et les anarchistes avec effet rétroactif. Texte qui avait déjà été présenté aux Allemands par Vichy avant même donc que Pierre-Georges ait tiré. Par ailleurs, le 27 août, en répression, trois condamnés communistes pour propagande sont guillotinés à la Santé, et trois autres à nouveau le 21 septembre. Le 21 novembre, à 7h du matin, sur un plan de Pierre-Georges, un détachement balance deux grosses pierres qui cassent les vitres de la librairie pro-nazie, rive gauche, à l'angle de la place de la Sorbonne, puis aussitôt y projette deux bombes. Les policiers en faction devant cette institution nazie tire, le détachement de protection riposte, pas téméraire, les flics à Pétain se sauvent à toute vitesse. Opération réussie. Durant cet été 1941, Albert Ouzoulias a constitué avec les JC des groupes de lutte armée qu'on appellera les bataillons de la jeunesse. Ces groupes agissant en liaison avec l'OS d'une part et les MOI d'autre part, le tout sous la direction du CMN, Comité Militaire National, sous l'égide de Charles Tillon. Ces trois groupes forment l'ossature de ce qui deviendra, au printemps 1942, les Francs-Tireurs et Partisans Français, FTPF.
Ce n'était pas assez, patrie, que ce torrent de soldats verts, et ton vin rouge dans leurs verres, et ton armée à la voirie. Il leur fallait les bras des hommes, et le cœur naïf des enfants, matins gamés, jours étouffants, sommes-nous des bêtes de somme, bleuets noyés dans l'eau des blés, col des marins couleur des veines, qui voit nos peines ou voit nos haines. Tous nos navires ont coulé, Toulon, plus un mât y balance. Je n'entends que mon cœur qui bat, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Il règne un bizarre silence, le silence blanc des statues, dont les yeux vides sont sans larmes, et dans l'absence de tes armes, ma France, que désires-tu? Ô, pareil au Christ aux outrages, le mensonge en fait de bâillons par les maillons de tes haillons saignant le sang pur des otages. Ils t'ont couverte de prison, de ce masque affublé où grince l'énigme sourire de Reims sous les fleurs de la trahison. Ils ont mis un sceptre de paille dans ta main pour rire de toi, puis t'ont hissé au haut des toits comme un mauvais épouvantail devant toi, pliant le genou en ton nom rendu la justice. Qu'importe qu'ils te travestissent, tu restes la même pour nous. À quoi rêves-tu, notre mère, les yeux perdus, les yeux tournés vers la mer Méditerranée? À quoi rêves-tu, douce amère? Je rêve, dit-elle, au printemps, à notre gloire impérissable qui refleurit parmi les sables. Je rêve d'Afrique, et j'attends les jours d'apocalypse où volent les burnous rouges d'Espaillie. N'attends pas, ma terre envahie, nous nous lèverons de ce sol. N'attends pas, tes fils ont choisi la liberté, cette rebelle, pour que les noces soient plus belles. Je n'ai pas donné mon fusil dormait dans l'armoire. Mes mains le tiendront mieux caché, le temps revient des francs archers, mon fusil à bonne mémoire. Écoutez, frères d'Algérie, les balles chanter l'espérance, où je tire, l'écho dit France, où je meurs, renaît la patrie.
En région parisienne, de juillet 41 à février 42, on dénombre 138 attentats et sabotages. Pierre-Georges en a organisé une trentaine. Ces actions, plus pour maintenir pour l'ennemi un climat d'insécurité que pour une efficacité militaire proprement dite. Ainsi, des coups de feu contre des officiers allemands, des incendies de camions militaires, lancement de bombes artisanales dans les lieux fréquentés par les Allemands, vol d'explosifs, jets de bouteilles incendiaires, sabotage de rails de chemin de fer, etc., etc. Et puis, le 20 octobre 1941 à Nantes, Gilbert Brunstein abat le lieutenant-colonel Holtz. Et le lendemain, à Bordeaux, Pierre Rebière abat un officier nazi. On connaît les conséquences. 27 internés de Chateaubriand sont exécutés le 22 octobre et le même jour, 21 de la prison de Bordeaux. C'est le sinistre Pucheux qui aura délibérément choisi la liste des otages parmi ce qu'il a appelé les internés communistes les plus dangereux. Mais les exécutions d'otages choquent la population. Néanmoins, petit à petit, celle-là sera de plus en plus indignée et sa colère montera.
Ils sont appuyés contre le ciel. Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel, avec toute la vie derrière eux. Ils sont pleins d'étonnement pour leur épaule, qui est un monument d'amour. Ils n'ont pas de recommandations à se faire, parce qu'ils ne se quitteront jamais plus. L'un d'eux pense à un petit village où il allait à l'école. Un autre est assis à sa table et ses amis tiennent ses mains. Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent. Ils sont bien au-dessus de ces hommes qui les regardent mourir. Il y a entre eux la différence du martyr. Parce que le vent est passé là, ils chantent. Et leur seul regret est que ceux qui vont les tuer n'entendent pas le bruit énorme des paroles. Ils sont exacts au rendez-vous. Ils sont même en avance sur les autres. Pourtant, ils disent qu'ils ne sont pas des apôtres et que tout est simple et que la mort, surtout, est une chose simple. Puisque toute liberté se survit.
En novembre, décembre 41 et ensuite, Pierre continuera de monter des actions, comme une attaque du siège de Déa, où, le 5 février, deux bombes dans un bordel de la Wehrmacht, avenue de Suffren. Cependant, après l'attentat de Barbès, un portrait robot paraît et Pierre doit se cacher. Son épouse et sa fille, aussi, qui finiront par partir à Rochefort. Le 6 mars 1942, Pierre se rend à l'atelier de réparation des armes et tombe sur la Gestapo qui perquisitionne. Un coup de pied dans le ventre d'un SS le sauve. Mais considéré trop en danger à Paris, Pierre est envoyé dans l'Est en avril 42 sur décision de la direction des FTP. Peu après, le 10 juillet 1942, Himmler publie une ordonnance dans laquelle il décide que les familles des auteurs de sabotage ou attentats seront pour les hommes fusillés. À ce titre, le père de Pierre, Félix Georges, et Guillaume Scordia, son beau-frère, seront arrêtés par la police française et internés le 8 juin 1942. Ils seront fusillés le 11 août 1942 au Mont-Valérien.
Reviendrez-vous 20 ans après fleurir leur nom sur cette plaque? Reviendrez-vous 20 ans après? Vous chercherez en vain leur nom, car la pluie au fil des saisons en 20 ans a tout effacé. Il en faut moins pour oublier. Y avez-vous songé, vous qui passez? Y avez-vous songé en 20 années? Rien qu'une fois, à leur amour assassiné. Reviendrez-vous 20 ans après fleurir leur nom sur cette plaque? Reviendrez-vous 20 ans après? Vous chercherez en vain leur nom, la pluie, le vent, chaque saison en 20 ans tout effacé. Il en faut moins pour oublier. Quelques œillets fanés, mal accrochés, quelques œillets fanés d'un vieil été. Au vent d'hiver s'en sont allés, écartelés. Vous reviendrez 20 ans après fleurir leur nom sur cette plaque. Vous reviendrez 20 ans après. Vous ne chercherez pas leur nom. Vous savez qu'au fil des saisons, les ondées ont tout effacé. Il faut si peu pour oublier. Mais vous vous souviendrez que 6 garçons sont morts un soir d'été d'avoir dit non. Lorsque la terre et les moissons sentaient si bon, vous reviendrez 20 ans après fleurir leur nom sur cette plaque. Vous reviendrez 20 ans après. Vous reviendrez 20 ans après.
Ainsi se termine cette première émission réalisée en hommage à Pierre Georges, alias, entre autres, colonel Fabien. Ce personnage de militant français antifasciste mérite absolument qu'un éclairage médiatique soit porté sur lui à travers une meilleure connaissance de sa vie et de son action. C'est à cet objectif que vise cette émission, moins pour en donner une idée exhaustive que pour inciter l'auditeur à aller plus avant dans sa connaissance de l'histoire des luttes anti-nazis. Pour réaliser cette émission, nous avons utilisé essentiellement 3 ouvrages. Tout d'abord, « Le colonel Fabien était mon père », un livre de Monique Georges, sa fille, paru en 2009 aux éditions « Mille et une nuits », toujours disponible. Ensuite, « Capitaine Henri Fabien en Franche-Comté 1942 », de Jean-Guy Modin, paru en 1956, introuvable, sauf dans le réseau des bouquinistes. Les bataillons de la jeunesse, de Albert Ouzoulias, aux éditions sociales, paru en 1969. À notre connaissance, non réédité, et lui aussi introuvable, sauf dans le réseau des bouquinistes. Nous remercions en particulier Monique Georges, qui a bien voulu superviser notre proposition et apporter les corrections nécessaires. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. Tout d'abord, 20 ans valse, c'est un texte de Louis Aragon, mis en musique par Lino Leonardi et interprété par Monique Morelli. Puis c'est Claude Vinci qui chantait la chanson « Rendez-vous avec la liberté » sur un texte de Renaud Gilles et une musique de Philippe Gérard. Ensuite, Marc Augeret chantait le traditionnel 1er mai, une chanson de 1896. Puis c'était Hiros el Pueblo, un traditionnel de la guerre d'Espagne. Ensuite, un document de chant des brigades internationales, Mamita Mia. Puis, sur un texte de Paul Vaillant-Couturier, une musique de Georges Auric, Marc Augeret à nouveau interprétait Le campeur en chocolat. Ensuite, 2 textes de Louis Aragon mis en musique, l'un par Jean Ferrat qui l'interprétait, C'est si peu dire que je t'aime. Et puis, sur une musique de Colette Magny et par Colette Magny, Richard de 40. Ensuite, vous avez entendu sur une musique d'Hélène Martin et interprétée par elle, le texte de Superviel, Hommage à la vie. Puis c'était la chanson du franc-tireur de Louis Aragon, dite par Mouloudji. Ensuite, c'est Maurice Bénin qui, sur sa musique et sur les paroles de René Guicadou, interprétait Les Fusillés de Chateaubriand. Et enfin, vous avez pu entendre Claude Vinci sur une musique de Jean Nathy et un texte de Jean-Guy Modin qui interprétait Vous reviendrez. Dans notre 2e future émission, nous évoquerons la suite du parcours de Pierre Georges, riche en luttes et en événements, pour aboutir à sa fin tragique et prématurée. Pour conclure cette émission, je vous propose l'écoute de la version d'Hélène Martin, musique et interprétation, du poème de Paul Éluard, Liberté. Bonsoir.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, la couronne des rois, j'écris ton nom sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance. J'écris ton nom sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres. J'écris ton nom sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des Mantes. J'écris ton nom sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade. J'écris ton nom sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique. J'écris ton nom sur les sentiers éveillés, sur les routes dépliées, sur les places qui débordent. J'écris ton nom sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite. J'écris ton nom sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni. J'écris ton nom sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend. J'écris ton nom sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté.
Son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Biston Clac. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Biston Clac. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mettre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redissent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les visse, mais on les claque. Thank you.
personne applaudisse, que s'arrête le temps. On s'embrasse, on se bise, on se bise dans le clac. Qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se raidissent, noircissent le printemps, qu'une chante qu'on les bise, mais on les claque. Thank you. s'arrête le temps. On s'embrasse, on se bise, on se bise tant que là.